Bonjour à chacun. Privilège de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Alors dans 2 semaines, c'est Pâques. Déjà dans 2 semaines. Alors on a pris l'habitude, les dernières années, de préparer Noël avec des séries sur Préparons l'Avent. Et cette année, on vous propose une petite pause là dans notre série sur Josué pour préparer Pâques, une mini-série de 3 dimanches. Et pour cela, on va utiliser les 3 derniers chapitres de l'évangile de Matthieu. Et peut-être que ceux qui ont regardé avec précision le mail de la semaine, il y avait écrit pour ce dimanche le chapitre 26. Pâques, c'est le grand moment pour les chrétiens. Le point culminant pour les chrétiens, le point culminant même pour l'humanité. Et ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de relire. Le prendre le temps de se souvenir, de méditer sur ces événements tellement centraux dans notre foi. Et j'aimerais un peu nous encourager pour les 2 semaines qui nous restent, de passer un peu en mode Pâques, un peu comme le mode avion sur nos smartphones, mais en mode Pâques pour méditer, pour réfléchir, pour nous rappeler, pour nous souvenir de cette œuvre de Pâques. Cette œuvre de Pâques sur 2 événements. La mort et la résurrection de Christ. Et en fait, s'interroger sur cela, c'est s'interroger sur le sens même de cette fête que nous exprimons. C'est une mort qui donne la vie. Pâques, c'est ça, c'est une mort qui nous donne la vie. Et c'est une vie qui détruit la mort. Jésus meurt pour donner sa vie. Et par sa vie, par sa résurrection, par cette victoire, il a détruit la mort et tout son pouvoir. Et on a ô combien on est privilégié d'avoir des témoins de ces événements qui nous ont laissé des récits, des épisodes, des tableaux de ce qui s'est passé pour pouvoir méditer pour nous ce matin. Alors, le programme des 3 méditations, des 3 prédications à venir, hein, comme je vous l'ai dit, chapitre 26, 27 et 28 pour les 3 prochains dimanches. C'est des successions d'épisodes. Et aujourd'hui, je vous propose de voir avant sa mort comment Jésus explique la mission de ce qu'il est en train, de ce qui va se passer. Dieu voulant, dimanche prochain, on verra au moment de sa mort ce que Jésus accomplit en tant que mission. Et puis Matthieu, pendant Pâques, il aura le privilège de nous évoquer ce qui se passe après sa mort. Et Jésus revient à la vie, tout ce que ça veut dire. Ce matin, je vous propose de regarder le chapitre 26, et j'ai, comme vous l'avez entendu, j'ai mis ce titre « Avant sa mort, Jésus explique le sens de sa mission. » Avant sa mort, Jésus explique sa mission, ce qui est en train de se passer. Jésus est venu sur terre avec une mission très claire, très précise. Son Père lui a confié une mission. Alors c'est vrai qu'à Pâques, on parle d'une mort terrible, de Jésus-Christ sur la croix, mais Jésus n'a pas subi son arrestation. Il n'a pas subi son procès. Il n'a pas subi sa mort. Jésus n'ignorait pas que sa mort serait violente, que sa mort serait prématurée. Bien sûr, il a souffert, mais il n'a pas subi. Il l'a choisi. Jésus s'est incarné en tant qu'homme. Il a voulu vivre cette vie humaine qui nous est décrite dans les évangiles. Et en fait, quand on réfléchit un peu sur la mort de Christ, on pourrait imaginer, penser, avoir cette impression que c'est... Cette mort, elle est subite à cause de cette coalition humaine, de ses opposants qui ont pris la décision de le faire mourir. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui offre sa vie. Et on voit dans de nombreux textes que les explications de sa mort. Il n'est pas venu subir sa mort, mais il l'a donnée. Et ce matin, on pourrait regarder ce chapitre 26, si vous avez pris le temps de le lire, vous vous dites, ouf, il est long. Mais je vous propose simplement de regarder les 35 premiers versets et vous verrez qu'il y a 4 tableaux, 4 scènes, 4 moments qui précèdent cette arrestation, qui vont le conduire à la crucifixion. Mais voilà, 4 moments qui vont nous montrer aussi comment Jésus explique sa mission, le sens de sa mission. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Matthieu 26 et on va prendre ces 4 premiers tableaux. Matthieu 26, à partir du verset 1. Premier tableau, versets 1 à 5. Lorsque Jésus eut fini de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples: Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. Alors les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre, appelé Caïphe. Et ils décidèrent d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Cependant, ils se dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Ça, c'est le premier tableau. Deuxième tableau, versets 6 à 13. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'ils étaient à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent « À quoi bon ?» Un tel gaspillage! On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. Le sachant, Jésus leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera proclamée. Dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Tableau 3, versets 14 à 25. Alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz « Le maître dit, mon heure est proche. Je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Et ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Maître ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » C'était le tableau 3 et enfin le dernier tableau que je vous propose de voir ce matin. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il leur la donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit « Vous trébuchez tous. Cette nuit à cause de moi, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après mes résurrections, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois tu me renieras. » Pierre lui répondit « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Jusqu'ici, la parole de Dieu. C'est des passages qu'on connaît. Ces tableaux, on les connaît. Je vous propose de regarder assez en survol ce que ces 4 tableaux veulent nous montrer, ce que Jésus nous explique. 4 tableaux qui mettent en relief les dernières heures de Jésus. Jésus savait par avance la mission qu'il était venu accomplir. Et Jésus est jeune, 30-35 ans. Il a à peine vécu la moitié de l'espérance de vie qu'on a aujourd'hui. Il atteint la pleine force de l'âge. À 30-35 ans, on est rempli encore de plein de projets. Quand vous avez côtoyé des personnes qui sont, qui se savent dans leurs dernières heures, vous voyez parfois combien les gens sont frustrés d'avoir pas tout accompli, d'avoir des choses encore devant eux à faire. Mais Jésus ici, à quelques heures, il se sait arrivé à l'accomplissement de sa mission. Et quelques secondes avant de pouvoir rendre l'âme, il pourra dire « Tout est accompli ». À quelques heures de sa mort, il ne regarde pas en arrière de tout ce qu'il a pu faire, dire, laisser comme bilan. Il va encore moins dire que sa mission se termine sur un échec. Seul, après 3 ans de ministère, avec des foules, il se retrouve seul. Non, Jésus regarde droit comme une mission qu'il est en train d'accomplir, d'achever. Le travail de 30-34 ans trouve ici son accomplissement avec cette mort. Alors regardons ce tableau 1, versets 1 à 5. Je l'ai évoqué comme ça. Par le calendrier, Jésus explique sa mission. Par le timing. Et je vous propose simplement de regarder une phrase. C'est le verset 2. Regardez ce qu'il nous dit, je l'ai affiché. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. Jésus a été explicite tout au long de son ministère. Il a annoncé qu'il allait donner sa vie. Qu'il allait donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et ici, vous l'avez entendu, il insiste, il complète même, il dit qu'il est là et que dans 2 jours, à Pâques, c'est maintenant, mon heure est proche, je vais mourir. Alors je ferai juste une petite remarque, hein. Vous avez peut-être remarqué cette expression du Fils de l'homme. On comprend que Jésus se désigne comme le Fils de l'homme par cette expression. Alors je sais que les spécialistes, les commentateurs sont pas toujours d'accord pour donner le sens de cette expression Fils de l'homme. Mais probablement qu'on pense que Jésus fait référence à l'Ancien Testament, où il y a cette expression notamment dans Daniel 7, ce prophète qui annonce la venue d'un Messie à venir et qu'il est appelé le Fils de l'homme. Mais dans Matthieu, il n'y a aucun équivoque, Jésus fait plus de 30 fois référence à cette expression Fils de l'homme et il se l'attribue, je suis le Fils de l'homme. Donc cette phrase, vous l'avez dit, cette phrase-là du verset 2, elle est claire, il se l'approprie, dans 2 jours, le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. Jésus parle d'un événement à venir dans 2 jours. Il faut nous l'expliquer dans le contexte. Alors on le sait, c'est peut-être du rappel, mais néanmoins, cette fête de Pâques, ce n'est pas la Pâque qu'on fête aujourd'hui, c'est la Pâque que les Hébreux fêtaient depuis plus de 2000 ans, de 1200 ans, pardon. Et qu'est-ce qui est célébré par cette fête? Cette fête a été instaurée à un moment crucial d'une libération d'un peuple qui est sorti d'Égypte. Le peuple d'Hébreux a été esclave pendant plusieurs siècles dans le pays d'Égypte. Et Dieu opère une délivrance par un certain nombre de miracles, et notamment le dernier, c'est un rappel, c'est la mort de tout premier-né. Et pour pouvoir échapper, le peuple d'Hébreux a eu la nécessité de sacrifier un agneau et de prendre son sang et de badigeonner les portes de leur maison. Un agneau sacrifié. Et pour se souvenir de cette libération, il y a plus de 1200 ans, le peuple hébreu, année après année, célébrait cette fête en se souvenant de cette libération, l'esclavage d'Égypte. Presque 1500 ans se sont écoulés. Et Jésus, ici, nous dit qu'à ce moment-là, il va mourir. À cette même date, c'est clairement pas un hasard. C'est intentionnel dans le cœur, dans la tête de Dieu. Avant, ce n'était pas encore le moment. À plusieurs occasions, il va dire « ce n'est pas encore le moment ». Il faisait route vers Jérusalem. Il dit qu'il avançait vers cette mort, mais ce n'était pas encore le moment. Et ici, Jésus est en train de montrer par le calendrier que c'est le moment de sa mort. Jésus est en train de dire à ses disciples ce qui se passe. Ce qui est en train de se passer est similaire à ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles en arrière. Il est en train de dire maintenant, il y a une libération qui est en jeu. Une libération. Maintenant, il y a un sacrifice qui va être offert. Il est en train de dire à ses disciples, comme il y a bien des siècles, Voilà ce qu'aujourd'hui va arriver, par ma mort, qui va libérer non pas un peuple d'un esclavage, d'un pays, mais l'esclavage bien plus pire, du péché. Il va libérer son peuple de l'esclavage du péché. Une libération. Et pour cela, il va aussi offrir un sacrifice. Il parle d'une crucifixion, hein, ce verset 2, d'une mort. Un sacrifice. Il va offrir sa vie. Voilà ce que Jésus est en train d'expliquer. Il va être arrêté et mis à mort par la crucifixion. Et Dieu, dans sa souveraineté, a prévu deux événements distants de tellement de siècles, et ces deux événements sont connectés. Il a tout prévu par le calendrier. Jésus explique sa mission par ce calendrier qui est en train de se préparer et de se mettre en place. C'était son heure. Voilà pourquoi il était venu au monde. Voilà pourquoi il annonce la libération du péché. Ça, c'était le premier tableau. Le deuxième tableau, Matthieu 26, les 6 à 13, on voit que c'est par l'attitude d'une femme qu'il explique le sens de sa mission. Par l'attitude d'une femme. On a cette image, hein, cette femme qui verse du parfum. Une scène forte, en émotion, en odeur, tout en raffinement. Et on voit les disciples là qui réagissent assez mal à cette situation. Je ne sais pas comment on aurait réagi. Ils ont un cœur louable. Hein. On aurait pu offrir pour l'Ukraine. On ne va pas questionner ce matin leur réaction. Ce n'est pas ça ce qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que Jésus dit de cette situation. Il communique quelque chose. D'ailleurs, un épisode, vous l'avez entendu, qui sera évoqué dans le monde entier. Et on en parle ce matin, de cette attitude de cette femme. Regardons la réponse de Jésus, et une fois de plus, pour cet épisode, je vous propose de m'arrêter simplement sur un verset qui me paraît clé. C'est le verset 12, relisons-le ensemble. Verset 12. « En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. » Une fois de plus, Jésus, là, il est en train de parler de quoi ? De sa mort. Son ensevelissement. Ensevelissement. Elle l'a fait pour préparer mon tombeau, certaines traductions. Sépulture, pardon. Par l'histoire de cette femme, par cet embaumement, il annonce sa mort. Un parfum coûteux qui est versé ? Ses disciples auraient préféré vendre ce parfum. Mais Jésus est en train de nous dire ce que cette femme a fait de ce parfum. C'est bien. Il dit même, c'est parfait. C'est ce qui devait être fait. Parce que sa mort, mes amis, a plus de valeur que ce qu'on aurait pu en faire avec. Jésus est en train de nous montrer que sa mort est absolument centrale, est importante. Sa mort a plus de valeur que tout. Deux idées hein, que je relève. Il communique que ça a une valeur unique, une valeur extrême de ce qui va se passer dans les prochaines heures. C'est grandiose. Il n'y a rien de plus grand. Et enfin, sa mort, elle est quelque chose de prioritaire. Elle passe avant le bien qu'on aurait pu faire aux pauvres. Rien n'égale cette mission qui est en train de se faire. Oui, la Bible nous dit d'aider les pauvres. Mais ce que Jésus est venu accomplir là, à l'instant à Pâques, il y a 2000 ans, est encore plus important. Vous voyez la logique ? Parce qu'il est venu nous délivrer du péché. Il est venu nous délivrer du péché. C'est ce qu'on va voir plus tard, dans la dernière image. Dieu est venu nous délivrer de ce qui nous condamne. Et quand on se rend compte, il n'y a rien qui a plus de valeur que cela. Cette mort qui est libérée. Par l'attitude de cette femme, Jésus est en train de montrer ce qui va se passer. C'est le plus grand événement de l'histoire. La valeur de ce cadeau, il n'y a rien de pareil. La priorité de cette mission, elle est totale, elle passe avant ce qu'on peut faire de bien comme mission humanitaire, de paix. La mission ici de Jésus dépasse tout, parce qu'elle concerne pas juste cette vie, elle concerne notre vie éternelle. Par l'attitude de cette femme, Jésus est en train de montrer que cette mort dépasse tout ce qu'on peut faire ici-bas. Troisième tableau. Ça ne vous a pas échappé, hein, les versets 14 à 25. Jésus explique sa mission par la trahison d'un ami. Par la trahison d'un ami. Après un beau tableau d'une femme et de son parfum, on a un tableau sombre, une tournure dramatique, un ami qui trahit. Une fois de plus, je vais me limiter à une seule phrase, verset 24. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. On a encore cette idée. Je m'en vais, j'annonce vers la mort, mais malheur à l'homme qui me trahit. On retrouve cette expression du Fils de l'homme, du verset 2, qui désigne Jésus. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui se passe d'étrange dans cette scène. Jésus sait qu'il y a un traître parmi ses disciples. Il sait même qui il est. Judas. Il le démontre, notamment par ce geste-là de cette main dans le plat. En fait, c'est quelque chose de juste qui ne devrait pas exister. La traîtrise ne fonctionne pas si elle est découverte, si elle est mise en lumière avant qu'elle soit exécutée. J'essaie de m'expliquer. Si un ami vous confie un secret, soit vous pouvez le garder, soit vous pouvez le dire. Mais si vous savez d'avance que cet ami, il ne va pas garder le secret. Il va le dire. Bah, vous n'allez pas lui dire ce secret. C'est aussi simple. Si vous savez que cet homme va trahir, vous n'allez pas lui confier. Jésus, sachant ce qu'il y avait dans le cœur de Judas, il le garde avec lui. C'est dingue. Pardon l'expression. Jésus dit que Judas a déjà trahi d'ailleurs. Et Jésus le dit à tout le monde qui est là, à tous ses disciples, il est en train de dire, il y a quelqu'un qui va me trahir. Devant ses disciples, Jésus dit, je sais qui me trahit. Pourquoi il dit ça? Parce que Jésus ne change pas son plan. Cette trahison démontre deux choses. D'une part que sa mission n'est pas de sa volonté propre. Jésus ne subit pas cette trahison. Vous l'avez lu, c'est conformément à ce qui est écrit. Conformément à ce que les prophètes disent. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet. Tel que l'Écriture l'avait prédit bien des siècles avant, on trouve plein de passages où on sait que quelqu'un va trahir Jésus. Jésus doit mourir. Jésus doit être trahi. Parce que cela accomplit le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Tout ce qui a été dit à son sujet de Jésus-Christ va s'accomplir. Jésus a choisi cette trahison, cette mission. Il aime tellement son peuple. Sachant ce qui va se passer, sachant qu'on va le trahir, il est prêt à poursuivre cette mission que Dieu lui a confiée. Pourquoi l'évangile de Matthieu, pourquoi les autres relatent cette trahison, nous laissent prendre connaissance de ces faits? Parce que la raison, elle est là, parce que ça montre que ça accomplit ce que Dieu avait annoncé depuis des siècles. Et pour nous convaincre que la crucifixion, c'était le choix de Dieu. Il accomplissait la volonté de Dieu. Un choix pas facile, mais un choix volontaire. Il allait mourir parce qu'il a fait ce choix d'obéir à Dieu. Parce que c'était le plan de son Père. Parce que Jésus savait que c'était le seul choix pour nous sauver. Il a volontairement accepté cela. Et ça montre aussi quelque part que Jésus est innocent, que Jésus n'est pas coupable, qu'il n'est pas pécheur. Comment vous faites pour condamner quelqu'un qui est juste? Par la trahison? Par le mensonge? Comment vous faites pour trahir quelqu'un qui n'a aucune faille? Par la trahison? Il faut magouiller, il faut monter tout un plan, il faut mentir. Et on le sait dans la suite, on le voit aussi dans le procès, il n'y a pas juste Judas, il y a tout un certain nombre d'enchaînements, de volonté de trahir à travers le procès, etc. Pour le capturer, pour l'accuser, pour le mettre à mort. Ils ont eu recours à cela, alors qu'il était innocent. En fait, la trahison de Judas fait partie d'un ensemble d'éléments pour le mettre, pour le pointer du doigt. Jésus savait ce projet humain de le mettre à mort. Il connaissait l'hostilité de certains à son égard. Il se savait trahi, il se savait rejeté, il se savait condamné par son propre peuple, par ses responsables religieux. Il savait qu'il allait être livré par son propre disciple. Il savait que ses disciples allaient l'abandonner. Jésus, celui qui est juste, est condamné. Jésus explique sa mort par cette trahison. Enfin, dernière scène connue, la scène, hein, le dernier repas. Et on voit ici tout le symbole dont Jésus explique par ce symbole fort. On est là au moment où Jésus instaure la scène, le dernier repas. La scène, ça veut dire simplement repas. C'est le dernier repas que Jésus prend avant sa mort. Et pendant ce repas, une fois de plus, Jésus explique pourquoi il meurt. Une fois de plus, le sens de sa mission. Et encore une fois de plus, je vais simplement me focaliser peut-être sur deux versets qu'on lit régulièrement, mais relisons-les. Versets 26 et 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Passage qu'on entend presque dimanche après dimanche. Jésus est en train d'expliquer sa mission par ce symbole fort. Jésus associe le pain avec son corps, le vin avec son sang. Ces gestes-là et ces paroles ont une portée inimaginable. Il a non seulement fait des gestes, mais il a parlé. Il a voulu visualiser avec ses disciples le sort qui l'attendait. Le pain, voici mon corps. La coupe, voici mon sang. Et tous les deux convergent vers quoi ? Vers sa mort. Le pain n'est pas le symbole de son corps encore vivant, mais de son corps brisé, de son cœur meurtri. Le vin ne représente pas le sang qui est en train de couler dans ses veines en tant que vivant, non, ce sang qui va être versé. Le corps, le pain, le vin symbolisent sa mort, celui qui allait être répandu pour eux. Alors ça nécessite peut-être quelques explications qu'on connaît. Jésus explique le sens de sa mort. Je relis le verset 28. « Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Ce sang est le sang d'une nouvelle alliance. Alors si on prend cette information tout seul, ça peut paraître obscur, si on n'a pas une grande connaissance de ce que l'Écriture dit et dit autour des alliances. Mais pour les disciples, c'est quelque chose d'énorme que Jésus est en train de dire. Par le sang que Jésus va verser lors de sa mort, Dieu va prendre l'initiative de conclure une nouvelle alliance, son peuple. Alors, quelques explications courtement. Hein. Dieu, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de son peuple, va faire alliance à plusieurs moments. L'alliance avec Adam, l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Moïse et j'en passe. Mais on fait ce constat, un peu terrible, que l'homme n'a jamais réussi à tenir, à obéir aux clauses de ces différentes alliances. Quand on lit l'Ancien Testament, on dit « Ouah, c'est mort !» C'est impossible humainement de se maintenir dans une alliance avec Dieu. On faillit à un moment ou à un autre. Mais on voit aussi avec toutes ces alliances qu'il y a en filigrane un espoir, qu'il y a une nouvelle alliance qui est en préparation. J'évoquais tout à l'heure que Jésus accomplissait simplement ce que l'Écriture disait de lui. Par exemple, on a dans le prophète Jérémie, 800 ans avant la mort de Jésus, cette nouvelle alliance qui est partagée, qui est dite. Je vous lis avec vous les quelques versets. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël, après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Jérémie parle d'une nouvelle alliance et du pardon des péchés. Ce que Jésus est en train de dire là, lors de son dernier repas. Ce que Jésus dit quelques siècles plus tard. Jésus explique sa mission par ce symbole de ce qui va se passer autour de sa mort. Mais titre que le sang des agneaux était nécessaire pour conclure une alliance, le sang de Jésus-Christ va conclure cette nouvelle alliance. Il est celui qui vient répondre par sa mort à cette nouvelle alliance. Et il dit la deuxième chose, hein, nouvelle alliance, mais pour le pardon des péchés. Nous sommes pécheurs, et je l'ai déjà dit, à cause de ce qui nous sépare de Dieu, nous sommes destinés à la colère de Dieu. Mais Jésus nous dit ici qu'il nous pardonne grâce à son sang, grâce à cette mort. Il échange sa vie contre la nôtre, un peu comme une rançon. Et là, autour de cette mort, vous allez trouver tout ce développement dans le Nouveau Testament, que par sa mort, il nous justifie, que par sa mort, il nous sanctifie, que par sa mort, il nous adopte, il nous sauve, il nous purifie, il nous vivifie, il nous fait habiter dans cette nouvelle alliance, il nous équipe, il nous recouvre, etc. Il le fait par son sang, par sa mort, par ce symbole de sa mort, de son corps qui est brisé, qui est percé. Jésus nous explique le sens de sa mission. Alors qu'il s'approche de sa mort. Il est important de noter que dans cette mise en scène, ce n'est pas juste Jésus qui est en train de montrer, de briser, de prendre sa coupe. Les 12 ne sont pas simplement spectateurs. Chacun d'eux est engagé. Ils ont pris ce pain. Ils ont fait tourner la coupe. Il ne suffit pas que ce pain soit simplement brisé, que ce corps soit simplement brisé, que ce sang soit versé. Il fallait qu'il le prenne. De même, il ne suffit pas que Jésus meure, mais il s'agit de se l'approprier, de le saisir par la foi. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 6. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Il faut le prendre, il faut saisir ce que Christ a fait sur la croix. Cet événement de la scène, il faut nous l'approprier. Et on peut le faire par la scène qu'on va prendre tout à l'heure. Il nous appartient de nous l'approprier. Et je me dis, c'est quand même fort, parce que c'est pour ça que cette scène se prolonge. Ses disciples prennent tout doucement conscience de ce que cela veut dire, et quelques minutes, on pourrait dire quelques heures après, vont l'abandonner. Jésus est en train de nous dire, je vais offrir ma vie alors que vous allez m'abandonner. Me laissez seul! Jésus savait cela. Jésus explique sa mission. Dans ce symbole tellement fort, ne nous privons pas de nous le rappeler dimanche après dimanche ou à chaque occasion que nous avons de pouvoir nous retrouver. Je conclue. Jésus, avant sa mort, explique sa mission. Explique pourquoi il a dû mourir. Et on a vu beaucoup de choses. Il annonce sa mort, son heure est venue, dans un timing parfait, prévu par Dieu, qui va rejoindre deux fêtes. Enfin, ça va être une seule fête. Il nous montre qu'il a choisi librement sa crucifixion, sa mort, parce qu'il accomplissait l'Écriture. Il n'a pas subi. Il nous montre qu'il a été injustement accusé, mais même cela a été écrit. Il nous montre qu'il inaugure une nouvelle alliance pour le pardon de notre péché. Waouh ! Jésus explique la mission. Et on pourrait, il y a beaucoup de choses à retenir, mais si on retenait seulement ça, de se dire que Jésus était clair, il savait où il allait, il savait où il mettait les pieds, il était venu pour cela. Alors, quelle application on pourrait retenir pour nous? J'aimerais simplement, c'est des récits qu'on connaît. Des récits qu'on connaît. J'ai rien appris de nouveau. Je vous ai rien appris de nouveau. Mais que c'est dans ces semaines qui nous préparent, qui nous précèdent à Pâques, dans cette plus grande mission, dans cette plus grand événement que le monde n'ait porté. Méditons cela. À Pâques, prenons le temps de méditer sur ces événements. Prenons le temps de partager cet événement important. Soyons émerveillés. Soyons dans la joie. Soyons dans la paix de nous savoir pardonner, de nous savoir accueillis dans sa famille. Soyons reconnaissants du sens de ces événements. C'est cohérent. La semaine prochaine, on verra ce qui se passe au moment de sa mort. Combien cette mission va s'accomplir.